Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Merci de votre fidélité hebdomadaire. On se retrouve chaque dimanche, un rendez-vous culturel, d'actualité, de société et particulièrement aujourd'hui d'histoire. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lecourt-Grandmaison. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche pour nous rappeler un pan de l'histoire. Vous êtes Olivier Lecourt-Grandmaison, universitaire, politologue, spécialiste des questions coloniales. On vous doit beaucoup d'ouvrages sur ce pan d'histoire, notamment 17 octobre, Crime d'État, paru en 2011, une date importante aussi puisqu'elle était dans la commémoration, si je ne me trompe, du 50e anniversaire du 17 octobre 61 et plus récemment d'autres ouvrages que nous évoquerons en fin d'émission, en référence. Vous êtes aussi fondateur de l'association 17 octobre contre l'oubli, et depuis de nombreuses années, vous œuvrez avec d'autres associations pour la reconnaissance du 17 octobre 61, qui est dans quelques jours, ce rassemblement sur le pont Saint-Michel auquel vous êtes attaché. Nous le sommes aussi à Beurre FM, et nous espérons être bien nombreux encore cette année. Mais avant de parler du 17 octobre 61, parlons d'un autre pan de l'histoire, celle de l'assassinat de Maurice Audin, ce mathématicien de 25 ans, professeur à l'Université des sciences d'Alger, membre du Parti communiste algérien, qui fut enlevé, torturé puis disparu en 1957. Elle a 87 ans aujourd'hui, Josette, son épouse, et ses enfants et de nombreuses personnalités et citoyens ont porté un comité de soutien pour que soit enfin reconnue et les qui sont en quête de vérité sur la recherche de sa disparition. Alger, depuis l'indépendance, une place près de la fac porte son nom, place Maurice Audin. François Hollande, en déplacement en Algérie, avait fait apposer une plaque commémorative au nom de la France. C'était le tout début d'une reconnaissance, sans doute, de la disparition de Maurice Audin, faite par la plus haute autorité de l'État. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, en septembre, Emmanuel Macron a fait une déclaration officielle qui reconnaissait donc l'assassinat de Maurice Audin, ce jeune mathématicien. Que pense l'historien que vous êtes, Olivier Lecourt-Grandmaison, de la déclaration d'Emmanuel Macron, du président de la République? Est-ce un nouveau pas, une avancée dans la responsabilité de la France? Il en faut d'autres, sans doute, et c'est de cela que vous parlerez.
Oui, assurément. Alors, tout d'abord, rappelez évidemment que pour Madame Audin, ses enfants, et pour toutes celles et tous ceux qui, depuis la disparition de Maurice Audin, je pense en particulier à Pierre-Yves Naquet, Madeleine Ribériou, et ceux qui, juste après l'événement, se sont mobilisés en France pour demander à ce que vérité et justice soient rendues. C'est évidemment un pas immense, un progrès très significatif. Reste que la déclaration du président de la République Emmanuel Macron me paraît entaché d'une part d'une contradiction et d'autre part d'un oubli. D'une contradiction parce que le président de la République reconnaît le caractère systématique de la torture employée pendant la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et 1962. Or, reconnaître le caractère systématique de la torture impliquerait alors, comme conséquence, que l'on reconnaisse non pas seulement que Maurice Audin a été enlevé, torturé et porté disparu, mais qu'il y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers, de Maurice Audin algérien pour lequel pour le moment il n'y a eu strictement ni reconnaissance ni réparation disons politique symbolique par l'acte même de reconnaître ce qui a été perpétré.
Ni aucune déclaration, je vous interromps un quart de seconde. Raphaël Branche faisait une déclaration du même ordre que vous, c'est dire s'il y a une unité entre guillemets d'historiens de penser qu'il fallait aller au plus de sa déclaration pour Maurice Audin mais de bien évoquer ces milliers de morts.
Alors, certains historiens, oui,
pas tous, sans doute.
Un nombre significatif, mais pas tous. J'ai moi-même été un peu surpris quand même lors de la déclaration du président de la République de cette espèce de consensus enthousiaste autour de la déclaration. Et par ailleurs, je signalais, outre la contradiction que je viens de mentionner, un oubli très significatif. Et cet oubli très significatif, il n'est pas lié à la méconnaissance de celles et ceux qui ont contribué à rédiger ce texte. Parce que nul ne peut douter que cette déclaration a été écrite avec un soin extrême, lue et relue. Or, qu'est-ce qui manque? Un élément absolument essentiel, qui est la qualification de ce qui a été perpétré là-bas, contre Maurice Audin et contre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Algériens, à savoir un crime contre l'humanité. Or, ce manquement, cette absence de qualification en dit long sur la façon dont le chef de l'État, le gouvernement et la majorité qui les soutient considère encore cette affaire. Donc c'est un pas significatif pour la famille de Maurice Adin, bien sûr.
Pour mais pas pour la grande histoire.
Mais relativement à l'histoire, plus généralement, et relativement surtout aux dizaines et aux centaines de milliers de victimes algériens, j'aurais presque tendance à dire, le terme est peut-être un peu violent, que au fond cela ne fait que souligner plus encore l'absence de reconnaissance qui devrait depuis longtemps être due à cela. Et de ce point de vue-là, ça a quelque chose d'un peu obscène parce que je ne vois pas comment celles et ceux qui ont été victimes de cela, leurs descendants, qu'ils soient français ou algériens, qu'ils vivent en Algérie ou en France, je ne vois pas comment cela ne peuvent pas percevoir cette absence de déclaration relativement à ce qui s'est passé comme une forme au fond nouvelle ou maintenue plus exactement, perpétuée de nouveau, de discrimination mémorielle et commémorielle.
Et pourquoi, à votre avis, encore autant d'hésitations, voire on n'est pas dans le recul, puisqu'on a fait un petit pas, vous l'avez souligné aussi, pour ne pas affirmer haut et fort, il parle dans la déclaration du président de la République à propos de l'affaire Maurice Adin, que j'ai sous les yeux, il parle d'apaisement, mais on veut aller au-delà de l'apaisement, on veut parler de vérité et puis de nommer directement l'histoire.
Pareillement, vous soulignez là très justement une autre des contradictions de cette opération politique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Apaisement.
Voire démagogique un peu ?
Sans doute en partie, et peut-être aussi en partie déterminée par les difficultés politiques qui sont celles d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais qui étaient également celles d'Emmanuel Macron lorsqu'il a fait la déclaration. Apaisement pour la famille Adin et ses proches, oui, assurément. Mais apaisement pour les Algériens et les Français issus de l'immigration post-coloniale et post-coloniale, certainement pas. Or, chacun sait, et c'est d'évidence, pour beaucoup de choses, relativement aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, qu'il ne peut pas y avoir d'apaisement s'il n'y a pas reconnaissance, justice, et dans certains cas, voire réparation éventuellement financière.
Vous le dites avec détermination, il se trouve que j'étais en Algérie au lendemain de cette déclaration du président de la République à propos de l'affaire Maurice Adin, et j'interrogeais justement des Algériens, militants, citoyens, des responsables politiques de la Fédération de France du FLN, qui disaient la même chose que vous, qu'effectivement, bon, c'était un petit pas, mais qu'il n'y avait pas une véritable force et démonstration politique de cette reconnaissance et cette recherche de la vérité qu'attendent aussi les Algériens.
Alors, la recherche de la vérité, d'abord, il faut préciser ceci, que la recherche de la vérité, heureusement, n'incombe pas à l'État, parce que, étant donné ce qui s'est passé, il serait un peu naïf de croire que l'État veut la vérité et que ses représentants actuels souhaitent qu'elle émerge. Donc la recherche de la vérité, elle est déterminée et liée à celles et ceux qui, historiens ou venus d'autres disciplines, travaillent sur ces questions et la vérité, où ces vérités relativement à l'Algérie, elles sont établies depuis désormais fort longtemps. En tout cas, plusieurs années. Donc le problème n'est pas tellement l'établissement de la vérité, le problème est moins celui de la connaissance désormais, effectivement, que celui de la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État. De ce point de vue-là, il est tout à fait singulier de constater que tant qu'on reste dans les frontières de l'Hexagone, on a l'impression que les responsables politiques de droite comme de gauche ont effectuer des pas significatifs. Si l'on veut bien sortir des 12 frontières de l'Hexagone, on s'aperçoit qu'en matière de reconnaissance, la France, comme ancienne puissance coloniale, ne se trouve pas dans les wagons de tête de la reconnaissance. Elle n'est pas même une locomotive, si je puis dire, et pour filer la métaphore ferroviaire, elle est bien au contraire dans les wagons de queue. Rappelez que l'Allemagne a reconnu le génocide perpétré par les troupes allemandes dans les colonies allemandes à l'époque qui s'appelle aujourd'hui la Namibie, le premier génocide, celui des Herero en 1904, que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et le Canada ont reconnu les torts insignes et les crimes commis contre les populations autochtones de ces différents territoires et dans certains cas, relativement au Canada, ont accordé des réparations financières aux descendants de ces autochtones et à leurs enfants. Comparativement à cela, on mesure que, de ce point de vue-là, la France est en retard terrible. Et ce qui révèle et souligne, me semble-t-il, plus encore, effectivement, l'extraordinaire pusillanimité des présidents de la République et des gouvernements sur ce sujet.
Alors ce retard, vous l'associez à quelle pensée politique de la société française aujourd'hui ? Une nostalgie, la France elle-même serait nostalgique de ce passé colonial ? Je veux dire, la puissance politique aujourd'hui, non pas qu'elle veuille reprendre des territoires, mais il y a quelque chose de l'ordre de on a perdu, mais quand même, on se l'avoue pas.
Alors, il faudrait sans doute
pas faire de psychanalyse de comptoir, mais oui. on est dans quelque chose de cet ordre-là.
Vous avez raison sur, pour certains, si, en ce qui concerne l'extrême droite et une partie de la droite radicalisée telle qu'elle peut être incarnée par Laurent Wauquiez, il y a certainement chez ceux-là une opposition radicale à toute reconnaissance au motif que ça porte atteinte à l'image de la France et que cela permet d'entretenir le mythe vivace d'une France réputée toujours conforme aux principes républicains qui étaient et qui sont encore les siens. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron et précédemment à lui de François Hollande, dont il faut rappeler qu'il a là aussi usé de formules sibyllines pour reconnaître, tout en ne reconnaissant pas complètement les massacres du 17 octobre 1961, qui d'ailleurs ne sont pas nommés comme tels dans la déclaration qu'il en fait, de même que Emmanuel Macron ne reconnaît pas qu'il y a eu crime contre l'humanité. Il s'agit sans doute moins d'une nostalgie que sans doute de la crainte de susciter de la part de la droite et de l'extrême droite des réactions éventuellement particulièrement violentes, à quoi s'ajoute, mais cela ne vaut que pour François Hollande, pas pour Emmanuel Macron, peut-être aussi la crainte que le retour sur ce passé colonial, et en particulier celui de la guerre d'Algérie, ne réactive et ne rappelle que en ces matières... L'ancêtre du Parti Socialiste, la SFIO, a été impliqué jusqu'au plus haut, puisqu'il faut rappeler que les pouvoirs spéciaux
dont sont évoqués Maurice dans la déclaration,
a été la victime, et des milliers d'Algériens, des dizaines de milliers d'Algériens avec lui, après et avant lui, que ces pouvoirs spéciaux ont été votés à l'initiative du président du Conseil de la 4e République, Guy Mollet, et votés par une Assemblée nationale, ou des députés plus exactement, qui comprenaient et des députés socialistes et des députés communistes qui ont voté la chose. Et donc là, effectivement, le passé colonial, ou ce passé colonial de la France, fonctionne comme un terrible révélateur, photographique, pourrait-on dire, qui met à mal toute une série de représentations de mythologie nationale relative au passé des organisations politiques et un certain nombre de leurs dirigeants. En ce qui concerne Emmanuel Macron ne venant pas de cette formation politique, je pense que c'est plutôt sans doute la crainte de s'aliéner une partie de l'électorat qui lui a permis de remporter les élections présidentielles.
Je rappelle que je reçois ce dimanche Olivier Lecourt-Grandmaison, il est historien et nous évoquons l'histoire et le devoir de mémoire. On y reviendra dans une deuxième partie de l'émission. Nous évoquions cette déclaration du président de la République à propos de la disparition de Maurice Audin. Dans une deuxième partie, nous allons évoquer la commémoration du 17 octobre 61. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Olivier Lecourt-Grandmaison. Il est historien, spécialiste des questions coloniales. Et nous allons évoquer le 17 octobre 61. Un crime d'État à Paris, c'est le titre de son ouvrage. Il a été paru aux éditions La Dispute. Il est toujours profondément d'actualité. Il était sorti en 2011. C'est le 57e anniversaire autour de la commémoration du 17 octobre 61 sur l'intitulé que je lis là, qui est le texte d'appel. On parle de vérité et de justice, le 17 octobre 61. Vous nous rappelez les faits. Que s'est-il passé le 17 octobre 61 ? De la part de l'historien, c'est important de l'entendre.
Absolument. Juste une précision, l'ouvrage est sorti en 2001. C'était
pour pardonnez-moi, 2001. 40e. C'était pour le 40e.
Absolument.
Rectification faite et importante.
17 octobre 1961, donc le FLN parisien appelle à une manifestation pacifique pour protester contre un couvre-feu dont il faut rappeler tranquillement mais fermement néanmoins qu'il était un couvre-feu de type raciste établi par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Couvre-feu raciste, puisque ce couvre-feu n'était opposable qu'à celles et ceux qu'on appelait à l'époque avec mépris, des Français musulmans d'Algérie, et plus méprisant encore, évidemment, ramené au sigle FMA. Cette manifestation et rassemblement sont évidemment interdits. Manifestation et rassemblement pacifique, faut-il le rappeler, c'est essentiel. Le FLN donnant des consignes très strictes à ses militants et aux manifestantes et aux manifestants de ne porter sur eux ni armes par destination pour éviter toute provocation. Et ce qu'il va se passer, c'est que sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon, la police va d'une certaine façon mener ce que, et rendons-lui hommage, Jean-Luc Kennedy a appelé la bataille de Paris. Et il s'agissait au fond pour les autorités politiques et policières de signifier très clairement qu'elles ne toléreraient aucune manifestation de ce qu'on appelait les terroristes à l'époque en plein cœur de la capitale pour des raisons à la fois de politique intérieure et de politique extérieure. D'où l'extraordinaire violence de la réaction qu'on ne peut pas véritablement et à proprement parler qualifier de sanglante répression. Charonne est une sanglante répression. En ce qui concerne le 17 octobre 1961, il faut dire les choses de façon claire, il s'agit d'un massacre et d'un crime d'État, puisque, en effet, celles et ceux qui ont été matraqués, parfois à mort, jetés dans la Seine, torturés, exécutés sommairement, disparus, l'ont été pour des raisons politiques, pour des raisons, disons, ethnico-raciales, parce qu'ils étaient, comme, selon le vocabulaire de l'époque, des ratons. Et éventuellement aussi, pourrait-on dire, pour des raisons religieuses, parce qu'ils étaient pensés comme musulmans et désignés en partie comme tels. De ce point de vue-là, il faut rappeler l'article 212 du Code pénal, qui rappelle qu'effectivement, la pratique systématique d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Et de ce point de vue-là, il me semble très clair, rappelons que le massacre du 7 octobre 1961, avant, pendant et après, ont fait, selon les estimations, entre autres faites par Jean-Luc Einaudi, entre 150 et 300 morts, que ce qui a été perpétré à ce moment-là relève effectivement bien d'un crime d'État et d'un crime contre l'humanité.
Alors, il a été question dans ce combat pour la reconnaissance de ce massacre, pour reprendre ce que vous dites, des Algériens à Paris le 17 octobre 61 et les jours qui ont suivi. Depuis plusieurs années, un certain nombre d'associations, de militants, de citoyens, d'historiens comme vous, mais je vais rappeler aussi que vous étiez fondateur de l'association 17 octobre contre l'oubli, donc vous avez porté dans cette association avec d'autres, je le répète, haut et fort ce combat pour la reconnaissance du 17 octobre 61. Est-ce qu'on avance depuis, je rappelle, je vous renvoie à votre livre 17 octobre, un crime d'État paru en 2001, ça fait bien longtemps déjà qu'on se mobilise des associations, dont Au Nom de la Mémoire, dont le MRAP, dont 4ACG, qui est l'association des anciens appelés en Algérie. Bref, bon nombre de signataires associatifs, politiques aussi, la Ligue des droits de l'homme aussi, signent cet appel pour le 17 octobre 2018 et ce rassemblement le 17 octobre sur le pont Saint-Michel à partir de 18h. Mais qu'en est-il été depuis ces nombreuses années, selon vous, qui a été fait? On en parle dans les manuels scolaires, il y a des livres qui sont parus, il y a des BD, il y a des films, que sais-je, avant de parler de reconnaissance, il y a eu tout ce travail de connaissance du 17 octobre 61 qu'il faudrait souligner, parce qu'on en a peu parlé, il a fallu que ça sorte.
Oui, absolument. Et préciser tout d'abord une chose qui me paraissait importante, qui est que les mobilisations relatives au 17 octobre 1961 ne relèvent pas seulement de la commémoration. Il ne s'agit pas simplement de s'incliner devant la mémoire des victimes.
Oui, il y a d'autres revendications, on y reviendra ensuite d'exiger. Il y a d'autres, bien sûr. On y reviendra sur les revendications, mais sur cette construction collective de connaissances et de reconnaissance.
Vous avez parfaitement raison. Depuis au moins 1991, agrégation et d'un nombre de plus en plus significatif et important d'associations, d'organisations syndicales, de partis politiques, constitution de collectifs unitaires. Travail absolument essentiel réalisé, faut-il le rappeler, par Jean-Luc Einaudi, qui a publié plusieurs ouvrages absolument fondamentaux sur le sujet et qui ont permis d'établir la vérité. Alors, les choses avancent. Évidemment, on serait tenté de dire, à la fois en tant qu'universitaire et intellectuel engagé, qu'elles avancent de façon géologique, eu égard à notre propre temporalité personnelle. Elles avancent néanmoins. Alors, qui est-ce qui a avancé? D'une part, il y a eu une plaque au Pont Saint-Michel, dont le contenu ne me satisfait pas complètement, mais au moins elle a le mérite d'exister.
Comme d'autres en région parisienne. Alors, qui ont suivi les années suivantes.
Comme d'autres en région parisienne.
Des dizaines et des dizaines.
Et donc, comme d'autres, c'est également important, comme on dit aujourd'hui, en région, à Givors en particulier,
dans l'Isère.
À Grenoble, toujours dans l'Isère, à Strasbourg. Bref, le processus, c'est, pour le dire en ces termes, en quelque sorte nationalisé. Inscription dans les manuels scolaires, ou de même que la torture en Algérie est désormais établie et inscrite, de même qu'il y a des témoignages, et le témoignage de la question de Henri Alleg, il y a des éléments sur les massacres du 17 octobre 1961. Filmographie significative et importante, que ce soit des documentaires ou des fictions.
Le silence du fleuve de Mehdi Lalaoui, qui était aussi très audacieux.
Absolument.
Et innovateur, puisque
tout à fait.
Il paraît en 1991.
Tout à fait.
Avec le
Nuit
livre
noire,
portant le même
d'Alain
nom.
D'Alain Tasma. Excellente fiction qui permet de rappeler le contexte de l'époque, de mettre en scène des personnages réels. Et donc, un travail là aussi filmographique significatif. Des reconnaissances locales, je pense en particulier à Nanterre, un boulevard du 17 octobre à Nanterre qui passe devant la préfecture de police, c'est très important et significatif. L'ensemble soulignant à mes
yeux... Là où était le bidonville de Nanterre, en plus.
Absolument, en plus. Donc là, les symboles sont multiples, parce que ça rappelle pas simplement le massacre du 17 octobre 1961, ça rappelle aussi les conditions atroces, terribles, économiques, sociales, financières, de logement, qui étaient faites à celles et ceux qui... pourtant, à l'époque, était juridiquement français, mais au fond, du point de vue des pouvoirs publics, n'était absolument pas considéré comme des Français métropolitains, et à ce titre, effroyablement discriminé.
On va rappeler que ce boulevard du 17 octobre 61 est aussi au combat que mène l'association Les Oranges, portée par Mohamed Kaki, mais pas que cette association, mais en tout cas, il a été l'un des moteurs, ce militant de Nanterre, à vouloir que soit inscrit ce boulevard du 17 octobre 61.
Cette précision est essentielle parce qu'elle souligne à Nanterre, à Grenoble, à Givors comme à Paris, qu'au fond, jamais les autorités nationales comme les autorités municipales n'ont été à l'initiative sur cette affaire. Il a toujours fallu qu'il y ait des hommes, des femmes, des citoyens issus de l'immigration coloniale ou post-coloniale ou des Français non issus de cette histoire qui se mobilisent pour... en précisant qu'à chaque fois, les mobilisations ont été longues, difficiles, coûteuses, d'un point de vue humain, mais dans certains cas, ont débouché. Heureusement. Mais ces débouchés locaux, pour le dire ainsi, ne font à mes yeux que souligner plus encore le décalage qu'il y a entre des reconnaissances partielles, locales, très importantes en effet, et l'absence de reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État. J'oublie. La ville de Bagnolet, c'est à ma connaissance le seul endroit en France où la plaque correspond absolument à ce pourquoi nous battons depuis si longtemps, à savoir la qualification du crime.
Nommé.
Le crime est nommé. Le responsable est désigné, Maurice Papon et la police française. Et évidemment, c'est exactement ce qui manque sur la plaque apposée au Pont Saint-Michel en 1991 à l'occasion du 40e anniversaire.
Donc au 40e anniversaire, c'était déjà quelque chose d'important. Donc on est là au 57e anniversaire, 17 ans après, il y a des avancées. Il y a toujours cette mobilisation. Et puis quand il se passe 17 ans, il se passe une nouvelle génération presque. Et là, c'est important aussi de dire que de plus en plus, il est important que cette nouvelle génération française ou issue de l'immigration sache ce qui s'est passé. De par leurs anciens, pour ceux qui sont issus de l'immigration, et puis par leurs anciens aussi, pour les Français, comme on dit tout court.
C'est essentiel et c'est aussi un problème. C'est évidemment essentiel que les jeunes générations, héritiers de l'immigration coloniale ou post-coloniale ou autre, effectivement,
s'emparent. C'est une histoire commune.
Bien sûr, c'est une histoire commune. S'emparent de ces mobilisations, de cette histoire, et continue de militer pour la reconnaissance, c'est une nécessité et un problème, parce que, effectivement, il faut, pour celles et ceux qui ont initié le mouvement depuis 1991, parfois même avant, à un moment donné, il va falloir arriver à faire en sorte que d'autres...
La relève.
Se mobilisent. La relève, en effet. La relève est d'autant plus nécessaire, effectivement, que si quelques pas ont été faits, beaucoup d'autres devraient l'être. Non pas seulement d'ailleurs, comme cela a été dit, relativement à la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État, mais, et là aussi c'est un problème relativement à la déclaration d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'affaire Maurice Audin. Parce que la phrase qu'il a prononcée relativement aux archives est susceptible de plusieurs interprétations. Une interprétation, disons, optimiste, puisqu'il a dit que les archives relatives à cette affaire seraient ouvertes. Mais que met-il sur cette affaire ? Cette affaire, c'est l'affaire Maurice Audin ou c'est la totalité de la guerre d'Algérie ? Si c'est la totalité de la guerre d'Algérie, fort bien. Mais de cela, pour le moment, nous n'avons pas d'assurance. Par ailleurs, les événements du 17 octobre 1961 en témoignent. Des massacres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité n'ont pas été commis seulement en Algérie, mais ont été également commis en France métropolitaine et au cœur de la capitale. Et donc, est-ce que la déclaration d'Emmanuel Macron concerne également les événements du 7 octobre ? Pour le moment, nous n'en savons strictement rien. Ce qui légitime évidemment le fait que, pour l'appel au rassemblement, est encore exigé évidemment l'ouverture de toutes les archives.
On va revenir dans un instant justement sur les revendications, puisque à chaque fois cette avancée sur la reconnaissance du 17 octobre 61 des plus, par les plus hautes autorités de l'État, c'est une revendication, une détermination que porte ce collectif. Il porte le rendez-vous du rassemblement à 18h le 17 octobre à 18h sur le pont Saint-Michel, mais aussi une volonté de dire qu'il faille s'interroger sur voilà, qu'une lumière soit faite sur, cette, sur ce que fut le 17 octobre. On se retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche Olivier Lecourt-Grandmaison et nous parlons de la commémoration du 17 octobre 61.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Olivier Lecourt-Grandmaison, l'invité. Ce dimanche, nous parlons du 17 octobre 61 et de sa commémoration. Je rappelle que le rendez-vous est pris le 17 octobre à 18h. Soyons nombreux et nombreuses sur le pont Saint-Michel. Non pas que pour se souvenir de la commémoration et des Algériens qui furent tués et massacrés ce 17 octobre 61, vous l'avez souligné, Olivier Lecourt-Grandmaison, mais aussi pour affirmer une véritable reconnaissance de ce 17 octobre 61. Avant de donner les rendez-vous d'autres en fin de semaine de cette semaine du 17 octobre, poursuivons l'idée que, avec vous, Olivier Lecourt-Grandmaison, qu'il faille encore être force de proposition, de revendication pour qu'enfin soit reconnu des plus hautes autorités de l'État ce massacre que fut le 17 octobre 61.
Alors, les principales revendications du collectif qui appelle au rassemblement le 17 octobre 2018 au pont Saint-Michel à 18h sont d'une part évidemment la reconnaissance du crime d'État par les plus hautes autorités de l'État, par définition, si je puis dire, enfin pas par définition, mais revendication, l'ouverture de toutes les archives, en précisant que il s'agit d'une revendication qui est évidemment démocratique, et qui vise à répondre en partie à une forme d'hypocrisie des responsables politiques qui, lorsqu'ils sont interpellés sur les affaires de reconnaissance, se défausse en partie sur les historiens en disant « travailler ». Ils oublient au moins deux choses dans cette affaire. D'une part, c'est qu'en général, celles et ceux qui s'intéressent à la question coloniale et au massacre du 7 octobre 1961 ne les ont pas attendus pour travailler. Que le travail a été fait, mais que ce travail se heurte parfois, pas toujours, mais parfois,
à cette non-ouverture, justement,
à l'absence de possibilité de consulter les archives. Et Jean-Luc Ainaudi, hélas, en a fait les frais. En ajoutant ceci que la France, comparativement à d'autres États démocratiques comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, dispose, si je puis dire, d'une législation qui est sans doute l'une des plus restrictives. D'où la revendication, comme pour l'affaire Audin, de l'ouverture des archives, même si, sans doute, eu égard à la nature du crime qui a été commis, crime de guerre, crime contre l'humanité, sans doute, ces archives ont été en partie purgées et, hélas, expurgées. Il n'en reste pas moins que c'est un élément absolument essentiel, parce que, notamment, les archives présidentielles qui permettraient de mieux comprendre comment la décision a été prise et quels ont été éventuellement les débats et les instructions données.
Justement, à propos de ces archives, est-ce qu'il n'est pas fait état qu'il y ait une date légale ou en tout cas une date officielle qui soit cette ouverture des archives, 50 ans, 60 ans, on entend qu'une possibilité d'ouverture des archives est inscrite officiellement.
Oui, alors le problème qui se pose parfois, et le problème s'est posé pour le cas de Maurice Papon, et là les délais sont plus longs, c'est que dans certains cas, il est estimé que, par exemple, le dossier personnel et professionnel de Maurice Papon, qui est donc un dossier qui intéresse Maurice Papon en tant qu'il a été, entre autres, mais pas uniquement, mais préfet de police de Paris, a parfois été considéré, ce dossier, comme comportant des éléments personnels qui, eux, sont soumis à une règle qui est beaucoup plus, à une durée qui est beaucoup plus longue. D'où, parfois, la possibilité d'interdire la consultation. Par ailleurs, souligner ce paradoxe, mais qui n'est qu'apparent, puisqu'au fond, il s'agit de l'expression, juridique et pratique de la raison d'État. Que c'est l'institution qui possède les archives qui donne l'autorisation à ceux qui demandent à consulter ces archives. Autorisation accordée ou pas. Exemple, vous souhaitez consulter les archives de la préfecture de police, il faut vous adresser à la préfecture de police. Autrement dit, cette institution est juge et partie. Ce qui, de mon point de vue, est absolument inacceptable. Il faudrait que les autorisations accordées à celles et ceux qui souhaitent travailler sur ces archives soient accordées, disons, par un comité scientifique, d'historien et ou de spécialistes, mais certainement pas par l'institution concernée qui peut justement être mise en cause à raison des actes commis par les membres de cette institution plusieurs années antérieurement, et le 17 octobre 1961 en particulier.
Dans votre appel, Olivier Lecourt-Grandmaison, là, pour la commémoration du 17 octobre 1961, il y a ces archives, il y a la volonté, la détermination que vous avez dans ce collectif d'une création d'un lieu de mémoire. C'est important, les lieux de mémoire?
Alors, vous avez eu raison de le préciser, ce n'est pas mon appel, c'est un appel très large de collectif. Oui. Lieu de mémoire, oui, c'est très important. C'est une forme, me semble-t-il, absolument essentielle de réparation symbolique, en même temps pratique, j'allais dire urbaine. Si on se promène dans Paris, on s'aperçoit, si on est un peu attentif à ces questions, que Paris est une ville qui rappelle sans cesse un certain nombre d'événements du passé. Des événements positifs et des événements tragiques. Relativement à des événements tragiques, nul ne peut aujourd'hui se déplacer dans Paris et passer devant une école maternelle, un collège, un lycée, sans qu'il y ait,
la plaque,
il est fort heureux qu'il en soit ainsi, sans qu'il y ait une plaque qui rappelle que des enfants juifs, français ou étrangers, ont été arrêtés par la police française sur ordre du gouvernement de Vichy et en collaboration avec l'occupant. Il s'agit d'un crime de génocide, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé au 17 octobre, évidemment, ou ce qui s'est passé en Algérie. Reste que c'est inscrit dans l'espace urbain. Ce qui permet,
l'espace public.
Dans l'espace public, exactement. Ce qui permet à celles et ceux qui déambulent dans Paris de prendre connaissance de ou de se rappeler que. D'où, évidemment, me semble-t-il, l'importance très grande d'un lieu de mémoire qui permettrait effectivement aux Parisiens, mais aussi à celles et ceux qui se déplacent dans la ville, de se rappeler et de rappeler à ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé que cela a bien eu lieu, que cela a bien été perpétré. Et éventuellement aussi rappeler les noms de celles et ceux qui ont été massacrés.
Qu'ils soient nommés, bien sûr.
Qu'ils soient nommés.
C'est pas une masse, c'est des hommes.
Ce ne sont pas des anonymes. Il y a des anonymes, hélas, mais pour beaucoup d'entre eux, nous connaissons leurs noms.
Et Jean-Luc Canaudi a
Jean-Luc
très
Canaudi
bien fait là-dessus, puisque on voit bien les noms des centaines d'Algériens dans son livre.
Les noms de celles et ceux qui ont été assassinés et portés disparus soient connus. Et rappeler que cette exigence qui peut paraître à certains et certaines éventuellement comme une exigence radicale, mais rappeler que tous les lieux mémoriels, que ce soit les lieux mémoriels pour ceux qui sont tombés pendant la guerre de 14, que ce soit les lieux mémoriels pour ceux qui sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les lieux mémoriels des Juifs français et étrangers arrêtés par la police française et livrés à l'occupant, toujours, il y a eu cette volonté non pas simplement de rappeler les événements, mais de rappeler l'identité de celles et ceux qui ont été happés, détruits, exterminés au cours de ces événements. C'est très important parce que ça permet de fixer et de donner un nom à un crime qui, en raison de son ampleur, reste et est, à raison même de son ampleur, difficilement imaginable. Comme disait Staline, qui en matière de crime de masse s'y connaissait, un mort c'est une réalité, des centaines de milliers c'est une abstraction. Or, justement, l'un des objectifs de ces lieux de mémoire, et d'un lieu de mémoire à la mémoire des victimes du 7 octobre 1961, serait justement de faire en sorte que cela ne demeure pas une abstraction, mais que des noms soient inscrits et que par conséquent
les descendants de ceux-là puissent effectivement faire leur deuil. Et les autres, de prendre connaissance de ce qui a été perpétré.
Votre volonté, j'allais dire votre souhait, mais votre volonté aujourd'hui, c'est que l'on soit nombreux, 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 ce 17 octobre, sur le pont Saint-Michel, bien sûr.
Oui, je dirais qu'on soit le plus nombreux possible, parce que, pour ne rien vous cacher, je crains une chose. C'est que la déclaration d'Emmanuel Macron relativement à l'affaire Audin rende la reconnaissance des crimes coloniaux plus difficile. Pour une raison, c'est que du côté de l'Élysée, du côté du gouvernement, du côté de la majorité qui le soutient, je crains cette réaction de dire, écoutez, nous avons fait beaucoup déjà sur l'affaire Audin, désormais, n'en demandez pas plus, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites. Je crains que ce soit l'argument qui nous soit opposé, et donc, pour tenter de le d'y répondre et d'établir un rapport de force qui nous soit favorable, il me semble absolument essentiel effectivement que nous soyons le plus nombreux possible le 17 octobre 2018 sur le pont Saint-Michel à 18h.
Et au lendemain de ce rassemblement sur le pont Saint-Michel, il est des rendez-vous qui sont importants, puisque on rappelait tout à l'heure, vous le rappeliez, Olivier Lecourt-Grandmaison, qu'un certain nombre de villes en région parisienne et en province, y compris en province, des rendez-vous au lendemain du 17 octobre, seront pris. Et vous serez, vous, le 19 octobre, à l'initiative de l'association Les Oranges de Villeneuve-Saint-Georges, dans une rencontre. On va rappeler aussi qu'une autre association, Les Émancipés, va organiser, elle aussi, le 19 octobre, un débat autour de 17 octobre 61, un crime d'État, point d'interrogation. Ça va se passer donc le 19 octobre à l'espace Robespierre, 2 rue Robespierre, c'est à Ivry, à 19h. Et enfin, le 20 octobre, au centre social Clara Zetkin, cité Clara Zetkin, à Villetaneuse. Et c'est dans l'après-midi, et là aussi, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'importance de s'adresser aux nouvelles générations. C'est au cœur d'une cité, c'est à destination des jeunes, une rencontre autour de personnes qui vont témoigner sur le 17 octobre 61. Et c'est à l'initiative d'une animatrice du centre social, Sabrina Boussekin, qui œuvre elle aussi depuis plusieurs années dans ce quartier pour faire connaissance, pour donner la connaissance du 17 octobre 61. Merci Olivier Lecourt-Grandmaison d'être venu ce dimanche à Beurre FM.
Merci.
Toujours déterminé, toujours cet engagement qui vous anime. Un prochain livre sort bientôt, vous m'avez rappelé en préparant cette émission.
Un prochain livre qui devrait sortir au cours de l'année 2019, dont le titre provisoire mais sans doute définitif est le suivant: Islam, représentation et politique musulmane de la France à l'époque coloniale.
Au cœur de l'actualité, toujours. Merci, Olivier Lecourt-Grandmaison.
Merci à vous.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.